Plusieurs fois, dans le sermon sur la montagne, Jésus attire l'attention de ses auditeurs sur ce qu'ils ont toujours entendu dire. Puis il secoue leur léthargie en orientant leurs pensées hors des chemins battus de la tradition. Par exemple, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent. » Vous avez appris qu'il a été dit, œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. N'y a-t-il pas aujourd'hui des traditions, des opinions ou des idées très répandues parmi nous au sujet desquelles le Christ pourrait encore dire, vous avez appris qu'il a été dit, mais moi je vous dis. Nous sommes souvent coupables d'imprudence. Chaque fois que nous recevons un enseignement religieux, sans contrôler d'une manière ou d'une autre s'il est en harmonie avec la parole du Christ. Généralement, si c'est bien dit, avec sincérité et conviction, on y croit volontiers. Ce sont là des critères bien faibles. Au contraire, nous devrions cultiver la même disposition d'esprit que les habitants de la ville de Bérée, évangélisés par l'apôtre Paul. Il est écrit à leur sujet qu'ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. L'exactitude biblique devrait être le soin de tout prédicateur et l'exigence de chaque auditeur. Car lorsqu'on déborde le cadre de la Bible, on s'aventure dans les terrains mouvants des doctrines et des opinions humaines. Ce sont elles précisément qui divisent notre monde. Ainsi, on entend dire très couramment « Toutes les croyances sont bonnes, pourvu qu'on soit sincère. » Que penser d'un tel propos? Est-ce vrai? Est-ce faux? S'il est vrai que la croyance d'un homme importe peu, pour quelle raison le Seigneur nous aura-t-il donné cet avertissement? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Pourquoi nous aurait-il dit « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Dès l'instant où l'on accepte que la croyance d'un homme n'importe pas, pourvu qu'il soit sincère, peut-on parler de fausse doctrine? En quoi consiste une fausse doctrine si chaque croyance se vaut? Pourquoi le Seigneur aurait-il dit « Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. » Pourquoi Paul aurait-il écrit à Timothée de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines? Pourquoi Jésus aurait-il dit que les hommes honorent Dieu en vain en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes? Nous pouvons voir que toute doctrine professée aujourd'hui par les hommes est évaluée d'après le modèle déposé par le Christ et ses apôtres. Tout comme les unités de poids et de mesure utilisées pour le commerce doivent se conformer strictement à l'étalon déposé et réglé par la loi, toute doctrine qui va au-delà ou en deçà du modèle type est considérée comme faux et comme falsifiée. On peut donc dire qu'il y a de véritables faussaires de la religion, des faussaires qui écoulent de fausses doctrines comme on écoule de la fausse monnaie. Et il y a aussi, hélas, leurs victimes, qui ont tout pris et qui ont tout cru. La Bible dit, il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de maîtres selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers les fables. Il n'est donc pas vrai que la croyance d'un homme n'apporte pas pourvu qu'il soit sincère. Dans ce propos, tout repose sur la sincérité comme si elle pouvait tout purifier et tout pardonner. Ce n'est pas parce que je le crois bon que le faux billet de banque qui m'a été remis deviendra bon. Il restera un faux billet, quelle que soit mon attitude à son égard. Dans ce cas, je suis sincèrement dans l'erreur. Et cela est vrai pour de nombreuses personnes en ce qui concerne leur religion. Prenons le cas classique de l'apôtre Paul. Avant sa conversion, Paul était un juif très zélé. Il était convaincu que son devoir le plus pressant était d'extirper du sein de son peuple ces créatures de malédiction qu'on appelait les chrétiens. Je les ai souvent châtiés dans les synagogues, dira-t-il lui-même, et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Mais il raconte aussi comment le Seigneur lui est apparu et comment il s'est converti à celui qu'il persécutait âprement. Non, la sincérité n'est pas un passeport absolu pour le ciel. Il ne suffit pas d'être vrai, encore faut-il être dans le vrai. Et si nous savons lire, si nous aimons la vérité, nous pouvons tous nous unir vraiment et sincèrement sur la base unique de la parole de Dieu. À ce point, on objectera peut-être que personne n'a le droit de s'écarter de la religion familiale. On ajoutera qu'elle constitue l'héritage le plus précieux. Ce sont là des considérations sentimentales tout à fait compréhensibles. Il est normal de vouloir utiliser le même itinéraire spirituel qu'un être aimé, de croire comme lui, de penser comme lui. Certaines personnes sont même heureuses de commettre les mêmes erreurs. Il y a 20 ans, la Bible ne circulait certes pas aussi librement qu'aujourd'hui. Des interdictions arbitraires ont fait que des millions de personnes sont passées sur la terre sans avoir connu le livre où Dieu parle aux hommes. Et par conséquent, elles ont bien souvent subi des enseignements et des doctrines étrangères à la parole de Dieu. Prenons le cas d'un fils dont les parents décédés étaient victimes de cette situation. Va-t-il refuser de lire la Bible parce que ses parents ne la connaissaient pas? Va-t-il volontairement s'attacher aux erreurs de ses parents sous prétexte que ces derniers y croyaient sincèrement? Je connais un homme pour qui j'ai une grande affection. Il se sentait attiré vers la Bible jusqu'au jour où il perdit sa femme. À partir de ce jour, il lui sembla que le seul moyen de rester uni à sa femme par-delà la mort, c'était de respecter scrupuleusement la religion de son épouse. Petit à petit, il me sembla à moi qu'il se méfiait de la Bible comme d'un danger qui pouvait le séparer de son cher souvenir. Combien ne sont-ils pas, dans son cas, paralysés par des sentiments nobles, certes, mais qui n'ont hélas plus rien à voir avec les devoirs de l'homme envers Dieu? Si je pouvais l'atteindre par la voie des ondes, je lui dirais de tout mon cœur, comme à tous ceux qui souffrent comme lui, ne restez pas figés dans votre souvenir. En cela, vous ne ressemblez pas à l'être pieux que vous n'avez plus. Au contraire, vous devez comme lui faire de votre vie un itinéraire vers Dieu, au moyen des lumières dont vous disposez. N'est-ce pas la meilleure manière d'honorer sa piété, tout en honorant votre Créateur comme il vous le demande aujourd'hui? Mais ce qu'il importe surtout de comprendre, c'est que devant Dieu, vous avez une grande responsabilité. Celui qui agit par erreur, parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, ne sera certainement pas jugé sur le même plan que celui qui refuse la lumière de vérité et qui s'attache consciemment à l'erreur, par sentiment ou par négligence. Le Seigneur pleure sur une telle attitude, comme il pleura jadis sur les villes impénitentes. Elles étaient restées insensibles à son message, et il leur dit, « Si Sodome et Gomorre avaient pu voir tous les signes que vous avez vus, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. C'est pourquoi elles seront traitées avec moins de rigueur que vous. Devant Dieu, chacun devra rendre compte pour lui-même. Chacun est donc tenu de servir Dieu de toutes ses forces, de toute son âme et de tout son esprit. Jésus a dit, « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, il a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Vous avez aussi sans doute entendu dire, « Je n'ai que faire de vos commandements. Ma conscience me suffit. » Ce raisonnement exclut radicalement toute autorité extérieure à l'homme. C'est la conscience qui devient Dieu et qui le gouverne. Or, nous savons que la conscience est loin d'être un guide infaillible. Elle est même souvent sujette à l'erreur. Elle peut faire office de boussole dans les orientations générales de la vie, mais on a déjà vu des boussoles détraquées. En effet, la conscience peut être en quelque sorte domestiquée ou endormie, c'est-à-dire insensibilisée. Elle peut donc ainsi proprement mourir. La Bible parle de conscience marquée comme au fer. Elle parle de ceux dont la conscience est encombrée, de ceux qui ont une mauvaise conscience et qui sont guidés par elle. Ainsi, la conscience est quelquefois si bien domestiquée, si bien dressée, qu'elle a appris à excuser ceux qui mentent à pleine bouche ou qui vivent dans l'indifférence et dans l'égoïsme. Tout comme une horloge doit être synchronisée avec l'heure solaire, toute conscience doit être en harmonie avec la volonté de Dieu pour remplir sa grande mission. Souvent, la conscience n'est que la voix de l'homme. Elle doit devenir la voix de Dieu. Celui qui pense ainsi se passer de Dieu court à sa perte, lui et sa conscience. Vous avez aussi entendu dire que la Bible est trop difficile. N'est-ce pas là une excuse rusée pour éviter de la lire? On peut en effet affirmer qu'en général, ceux qui disent cela n'ont jamais essayé de la lire. Évidemment, elle contient des passages compliqués, mais ils sont si rares qu'ils sont négligeables. D'autre part, ces textes plus obscurs ne constituent pas la nourriture essentielle à notre foi. Méditons cette remarque de l'humoriste Mark Twain. « Ce ne sont pas les passages difficiles dans la Bible qui me troublent, disait-il. Ceux qui troublent ma conscience, ce sont surtout ces nombreux textes parfaitement clairs. » La parole de Dieu est comparée à du lait spirituel dans certains de ses aspects, et le lait convient aux débutants, aux nouveau-nés dans la foi, en quelque sorte. Mais elle est aussi une nourriture solide pour les plus avancés. Chacun y trouve sa part, chacun y trouve sa subsistance. Chacun en a un besoin vital. En résumé, nous citerons cette recommandation de l'apôtre Jacques. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité.